Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les amphibiens visqueux de la critique. J'ai nommé Sophie Avon de Sud-Ouest, Charlotte Lipinska de Vanity Fair, avec Eric Nohoff du Figaro, Pierrot, Pierre Murat, qui voit tous les films de Télérama, puisqu'on parle ce soir des films de Paul Thomas Anderson, Guillermo del Toro, Greta Gerwig, Xavier Giannoli, Laurent Tirard, Raja Amari et Danny Boone. Dans le courrier de la semaine, à ma grande surprise, notre enthousiasme au masque pour Jusqu'à la garde de Xavier Legrand est partagé et très tempéré même. Alors il y a les pour, comme Pierre Cusor, très grand film, tout en ellipse, mené de main de maître par trois acteurs éblouissants, ou encore Maël Collin, c'est simple, un grand film, un grand scénario, une grande mise en scène et une grande interprétation, ou encore Olivier Petot de Replonge qui nous dit que dans la salle, les gens étaient scotchés à leur siège dans un silence de cathédrale. C'est un film incomparable. Et puis il y a aussi beaucoup de critiques très sévères, j'imagine à la mesure des dithyrambes du Masque et la Plume, ça c'est un classique. Jacques Palloumet, Danière, parle d'un téléfilm où les clichés s'accumulent. David Nenin est déçu par une histoire réaliste, mais finalement très banale. Nicolas Cognard, qui habite Niort, nous dit que Xavier Legrand enfonce des portes ouvertes. Christophe Despaux parle d'un médiocre thriller malhonnête et mal fagoté. Et surtout, il ajoute, alors là, cher Christophe Despaux, j'ai du mal à vous suivre parce que vous dites qu'il y a plus de richesse et d'ambiguïté dans une seule scène du 15h17 pour Paris de Clint Eastwood que dans l'intégralité du Jusqu'à la garde.
Ça
tempère un peu quand même.
C'est une thèse audacieuse.
Voilà, oui,
c'est
un peu audacieux. Moi,
c'est original.
On lui laisse la garde du Clint Eastwood.
Et Christine Taxeller nous apostrophe. Pauvre critique, que de nanar vous devez avaler pour faire votre miel de Jusqu'à la garde. Binaire l'histoire, binaire la vision, binaire les personnages, binaire le jeu des acteurs. Mais en revanche, pour le film de Woody Allen, encensé par trois critiques du Masque et la Plume, eh bien la déception est quasiment unanime chez nos auditeurs, ce qui me fait beaucoup de peine. Christine Fink, quelle tristesse que ce Wonder Wheel, qui lui n'a rien vraiment de magique, sans humour, sans la moindre subtilité. Comme Eric Nohoff, ajoute Corinne, j'ai détesté le dernier Woody Allen, on se serait cru dans une mauvaise pièce de boulevard. Elisabeth Hirsch trouve Wonder Wheel complètement ringard, déjà vu, mal joué, avec des décors en carton-pâte, une lumière trop sucrée, bref, rien n'a sauvé. Pascal Hénard de Bourg-les-Valences, en accord avec Eric Nohoff, il peut même ajouter Jérôme, pas un rire, pas un sourire, de l'ennui agrémenté par une couleur criarde, un chewing-gum pour enfants. Béatrice Roussel de Rennes se moque du Masque et la Plume. Comme à chaque nouveau Woody Allen, je peux anticiper ce que les critiques vont déclarer au masque. Les précédents n'étaient pas réussis, mais ce dernier est génial. J'ai encore halluciné, nous dit Béatrice Roussel. Cette fois, le stade de la caricature est dépassé. Ou encore, plus dur, Madame Ferrière qui nous dit Woody Allen, où la vieillesse est un naufrage depuis déjà plusieurs années. Beaucoup de lettres pour condamner les propos du masque à propos de In the Fade de Fatih Akin, avec un mail qui les résume tous, c'est Wolfgang Bertrand qui nous dit « Vous n'avez même pas pris le temps de vous documenter sur la réalité du procès actuellement en cours en Allemagne. Le mutisme des accusés n'est pas une faiblesse du scénario, mais c'est la réalité de ce procès. » On commence non pas avec le Danny Boone, mais avec la forme de l'eau. Le film fantastique, romantique et même érotique de Guillermo del Toro, qui lui a valu le Lion d'or à Venise et qui part favori aux Oscars avec la bagatelle quand même de 13 nominations. Et c'est avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins sur une musique d'Alexandre Desplat avec en prime une jolie reprise, je trouve, de la javanaise de Gainsbourg. On est en 62 pendant la guerre froide. Elisa, c'est Sally Hawkins, est une jeune femme muette qui vit avec un vieil artiste homosexuel et qui travaille comme agent d'entretien dans un labo où un homme amphibien, c'est Doug Jones, qui est couvert d'écailles. De temps en temps, j'ai pensé à toi en regardant la tête.
Je suis l'écaillé du cinéma.
Dommage que vous ne puissiez pas voir la petite tête d'Eric qui doute lui-même de sa blague.
Il est très sexy.
Et donc cet homme amphibien est prisonnier dans ce laboratoire et la jeune femme muette va tomber amoureuse de lui avec l'aide d'un agent russe décidé, je ne dis pas réussir, mais décidé de le libérer sans mesurer combien le monde extérieur est dangereux pour lui. Version évidemment aquatique, aqueuse de La Belle et la Bête et puis une apologie de la tolérance, Eric et Caillé.
J'ai trouvé ça un petit peu dégoulinant dans tous les sens du terme.
Trop d'eau, trop d'eau ?
Trop d'eau, trop d'eau, trop de sucre, trop de gentillesse, c'est trop de couleurs. Oui, un petit peu. Et tout ça pour nous dire que les vieilles filles devraient s'acheter un poisson rouge. Il n'y a pas besoin de 2h10.
Ah, c'est ça que j'entends.
Non, en plus, ce genre de film, on l'a chez nous. On a par instant l'impression de voir un décalque de Jeunet Caro ou dans les pires moments du Luc Besson sous Prozac.
C'est un reproche qui lui a été fait d'ailleurs.
Oui,
et d'ailleurs, c'est peut-être des hommages revendiqués, j'en sais rien, parce qu'il y a un autre truc qui l'a piqué, c'est la fameuse question, est-ce qu'il faut se laver quand on est un homme les mains avant de faire pipi ou pas. Ça, c'était déjà dans Détective de Godard. C'était d'ailleurs la seule chose intéressante du film. Et on peut repérer comme ça les clins d'œil. Mais c'est un film qui est dans la nostalgie avec cette lumière verdâtre qui est un peu lassante au bout d'un moment. Et avec les comédies musicales, les gros téléviseurs en noir et blanc, les tartes au citron qu'on peut pas finir et qu'on garde dans le frigo. Et puis des étranges informations comme quoi les cornflakes auraient été inventés pour remplacer la masturbation. Alors, je sais pas ce qu'en pense Monsieur Kellogg's, mais d'ailleurs, la fille contredit un peu ça parce que tous les matins, elle se fait des choses dans sa baignoire et elle mange aussi des céréales avant. Ben oui, c'est un joli film, mais un petit peu poisseux, sucré, et puis pas très nouveau. Je suis un peu étonné de...
Mais ce message de tolérance ne t'a pas touché?
Oui, on a ça dans tous les coins de rue, le message de la tolérance.
L'homme de gauche que tu es profondément n'a pas été...
Mais j'ai pas vu du tout un film de gauche. Moi, j'ai vu un film fantastique, comme quoi l'étrange créature du lac Noir se nourrit d'œufs durs. On aurait dû le savoir avant, et on n'aurait pas été en kikinet aussi longtemps.
Sophie?
Moi, j'ai vu il y a très longtemps et je ne suis pas allée le revoir exprès parce que j'ai laissé décanter et il me reste un film merveilleux. Il me reste quelque chose. Alors, je n'ai pas du tout vu le même film qu'Eric.
C'est très gentil. Hein,
non, mais je ne le trouve pas gentil, justement. Oh. Moi, je ne suis pas très familière. Enfin, je n'aime pas spécialement l'univers de Guillermo del Toro. Ses films précédents ne me plaisaient pas tellement. Et là, je ne sais pas si c'est le préambule aquatique qui m'a fait entrer directement ou la masturbation de la baignoire, on va savoir. Mais je suis rentrée.
C'est pas incompatible.
Mais
si la baignoire est remplie.
En tout cas, je trouve qu'on rentre dans ce film avec une sorte de c'est à la fois aquatique, paisible, beau, féerique, etc.
C'est un peu amniotique aussi, d'ailleurs.
Amniotique, absolument. Et j'allais, justement, je rebondis sur ce que tu dis, parce que pour moi, c'est vraiment un film sur la vie intérieure de cette jeune fille, de cette jeune femme. Bon, Sally Hawkins n'est pas une jeune fille, mais enfin, bon, cette jeune femme. Et je trouve que c'est une idée absolument merveilleuse d'avoir pris un personnage et d'en avoir fait une muette, alors qu'elle a tant de choses à dire, elle a tant de choses à exprimer, qu'elle ressent tellement de choses. Et je trouve que c'est très beau la façon dont lui permet de s'épancher à travers son amour, à travers cette... Et moi, il ne reste que ça. Alors, j'aime moins, en effet, la partie sur l'espionnage, le côté les années 50-60, l'Est-Ouest, l'exfiltration,
le
salopard, etc.
Mais c'est pas le propos du film, cela dit.
Mais il me semble que c'est pas le propos
du
film.
C'est un décor.
Et en revanche, je trouve que ça n'a rien à voir avec Jeunet. Enfin, pour moi, c'est pas du tout l'univers de Jeunet.
Visuellement, quand même,
visuellement.
Sophie. Bah, visuellement,
écoute, même
esthétiquement.
La scène, non, mais franchement, même là, non, pour moi, c'est plus Cocteau que Jeunet, je suis désolée. Et la scène sur laquelle
pas
il a...
Pas sur les lumières, pas sur les détails
la
du décor.
couleur, je t'accorde la couleur, mais je trouve que c'est pas l'univers féerique de Jeunet, et je trouve que la scène dont il parle et dont, à laquelle il reproche Guillermo del Toro d'avoir, elle a rien à voir, parce que je l'ai revue, la scène, il regarde la télé en effet en se trémoussant sur le lit, mais c'est, ce qui compte dans la scène, c'est les pieds qui bougent, et à la limite, c'est dans Paris Pieds Nus qu'on voit cette scène-là, oui. avec Emmanuel Riva et Pierre Richard, mais pas dans Délicatesse. Bon, bref, peu importe, de toute façon, lui-même a retiré son truc, hein, mais vraiment, je trouve que c'est un film d'une féerie merveilleuse.
Charlotte.
Non, c'est pour rebondir sur ces clins d'œil à l'univers de Jeunet et Caro, il y a quand même, si on revoit La Cité des Enfants Perdus ou Délicatessen, plus que Amélie Poulain d'ailleurs, oui. il y a quand même effectivement un cousinage ou une même famille esthétique quand
lui,
on aime.
Lui, il dit Thierry Guillaume, hein. Lui, il dit c'est lui notre père.
Mais bon,
à tous.
Avec ses images un peu vintage, rétro, verdâtre dans les couleurs, extrêmement colorées.
Est-ce que ça t'a plu
Je suis assez impressionnée parce que c'est quand même le film somme de toutes les obsessions de Guillermo del Toro, à savoir les amours fantastiques, les expériences scientifiques un petit peu étranges et cette ambiance comme ça gothique, un peu rétro. Visuellement, je trouvais ça assez splendide, c'est-à-dire que chaque détail du décor, chaque plan est un régal pour l'œil. Après, il y a une telle naïveté, une telle candeur, il y a aucun second degré dans tout le film que moi, j'avoue que effectivement, ce pamphlet un peu de tolérance m'a laissé un peu de marbre. C'est-à-dire, je n'ai eu aucune émotion, alors que sur le papier, cette histoire a tout pour faire fondre les cœurs et qu'on verse sa petite larme. Et j'avoue que moi, je n'ai eu même ni peur ni frisson, parce que le côté un peu polar et thriller, quand même, qui sous-tend cette histoire d'amour, on n'a jamais
mais
peur
il a pas
pour eux.
De faire un thriller,
mais non,
hein.
Tout est cousu de fil blanc, c'est clair. Voilà, je n'ai eu aucune émotion autre que esthétique, parce que j'avoue que là, j'étais quand même plongée dans une bande dessinée amphibie fantastique d'une richesse visuelle absolument inouïe.
Pierrot,
Moi j'ai mon grand cœur qui a fondu. Moi je trouve ça très 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 bien. Je suis pas du tout un fan de Guillermo del Toro, c'est pas mon univers du tout. Mais là je trouve qu'en effet il y a tellement d'emprunts. Alors tout le monde parle de Jeunet, etc. Il y a un dramaturge, je sais pas quelle nationalité qui lui a flanqué un procès.
Ah bon ?
Ouais, c'est pour ça que tout le monde se retrouve un peu là-dedans. Mais en effet, tu l'as dit, Eric, c'est aussi la créature du lac noir. C'est la Belle et la Bête. Non, mais c'est une suite comme ça d'emprunts. Il y a des emprunts de comédie musicale, parce que brusquement, elle se rêve en héroïne de comédie musicale. Il y a les films d'espionnage des années 50 avec des Russes qui parlent russe, pardon de le dire, mais avec un accent absolument épouvantable.
Ah oui, ça, je suis d'accord.
C'est une catastrophe. C'est pas grave. Mais
non,
enfin,
c'est drôle.
Mais on peut pas trouver à Hollywood des quinquagénaires, sexagénaires qui parlent russe sans accent. C'est un peu pénible. Mais je trouve que c'est tellement frais. C'est sympatoche comme
je rigole,
c'est au-delà du sympatoche. Je trouve que c'est une telle réussite dans ce qu'il veut faire que moi je me fous des emprunts, je me fous de savoir si c'est la Belle et la Bête.
Est-ce que t'as eu des émotions, Pierre?
Mais oui, mais je trouve ça, je suis très très ému quand à la fin.
Non.
Malheureux.
Non mais
il est malheureux. Quand
il
est vu, quand
il allait le faire.
Ça finit en queue de poisson.
Tais-toi. Bon, je me tais. Mais c'est très bien.
La forme de l'eau.
Le début est émouvant. Oui, le début.
Ah, le début, ça, tu peux raconter.
Oui, je peux.
Guillermo del Toro, des réactions sur ce film, non. Phantom Thread, ou Le fil caché, ou encore Le fil invisible, comme vous voulez. Paul Thomas Anderson, le réalisateur qu'on adore de Magnolia, et de There Will Be Blood avec Daniel Day-Lewis, dont ce serait les adieux au cinéma. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux ou pas, d'après vous?
J'espère que non, pas de malheur.
Je ne te demande pas ce que tu espères, mais...
Il avait déjà fait les adieux, il réitère un peu souvent les adieux.
Sauf que là, il l'a beaucoup répété. Bref.
Il s'est rasé le crâne pour ne pas pouvoir tourner n'importe quoi.
Avec donc Daniel Day-Lewis dans le rôle du couturier Reynolds Woodcock, ça rime d'ailleurs avec Hitchcock. On est à Londres dans les années 50, il dessine les vêtements du Gotha, des stars de cinéma, et même de la famille royale, et un jour à la campagne, il rencontre Alma, c'est Vicky Cripps, serveuse dans une auberge, qui devient sa maîtresse et son égérie. Quand elle aura cessé d'ailleurs de l'inspirer, Woodcock demandera à sa sœur et assistante, qui est jouée, je trouve, formidablement par Leslie Manville, de lui signifier qu'elle est répudiée. Woodcock, vieux garçon tyrannique, incapable d'aimer, et dont
Une mèche des cheveux de sa mère est cousue dans la doublure de ses vêtements. Je dirais que c'est à la fois, pour moi en tout cas, beau et pervers. C'est les deux à la fois. Charlotte.
C'est extrêmement beau et extrêmement pervers. Et je crois qu'il faut que je remonte vraiment très 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 loin en arrière pour me souvenir d'un film qui m'a fait autant d'effet et que je trouve beau à ce point. Ce film m'a absolument transportée, subjuguée.
Plus que les tuches. Je veux dire, plus que le...
Un poil plus. C'est-à-dire que sous un classicisme apparent qui n'a absolument rien d'académique, je trouve le film extrêmement contemporain et moderne. Il y a par exemple tout d'un coup des accélérations du rythme par le montage quand ils sont en voiture, quand ils essayent de séduire cette jeune fille qui sont totalement surprenants. Et puis ce couple qui est improbable sur le papier où on se dit qu'il va la manger toute crue assez vite... Plus le film se déploie, plus évidemment leur relation va se complexifier et plus ce Woodcock, cet homme extrêmement mystérieux, ce qui est donc attirant au début, vous savez, les femmes, on est toujours attirées par le mystère, c'est charmant, mais oui, sauf qu'au bout d'un moment, trop de mystère, ça en devient inquiétant. Et donc, non, il en devient inquiétant parce qu'il reste insondable et donc, il va un climat anxiogène.
Moi, ou pas?
Je ne sais pas ce qu'il y a dans la doublure de votre veste vous répondre, Jérôme. Mais en tout cas, le film, je trouve qu'il y a une espèce de double mouvement inverse, c'est-à-dire que plus ce créateur va habiller les femmes et sa femme s'amuse à la recouvrir de robes absolument plus somptueuses les unes que les autres, et plus dans le même temps, lui va se découvrir un peu mentalement. C'est-à-dire que ce mystère du personnage va s'effeuiller petit à petit comme un striptease mental et où on va découvrir les névroses, les peurs qui sont cachées vraiment dans les replis et les doublures de ses vêtements. Et Paul Thomas Anderson a une mise en scène d'une rigueur absolue qui est extrêmement sûre d'elle. C'est-à-dire, je connais quand même aucun réalisateur...
Charlotte, c'est vrai de tous les Paul Thomas Anderson.
Absolument, là, absolument. Mais là... Il y a une scène notamment qui est un réveillon de Saint-Sylvestre, grand bal costumé. Il y a peut-être 500 figurants dans le plan. Qu'est-ce que fait Paul Thomas Anderson? Ça n'est qu'un gros plan sur Daniel Day-Lewis. Quel réalisateur au monde ose faire ça par rapport à ses producteurs? C'est-à-dire déployer une séquence inouïe pour ne retenir qu'un gros plan sur Vicky Krebs, qui est quand même la grande révélation du film.
Pierre.
C'est un chef-d'œuvre, c'est un film absolument magnifique. Moi, je suis depuis le début, j'aime beaucoup.
Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu au masque parler. Au sens propre de
chef-d'œuvre. Non, mais je trouve en effet parce que je trouve que c'est l'aboutissement de toute une série de films qu'il a fait. Magnolia, tu l'as cité, et puis Boogie Nights avant, où il y a toujours ces deux grandes idoles. En général, c'est Max Ophuls, c'est Kubrick. C'est-à-dire que Max Ophuls, c'est toujours pour les mouvements de caméra absolument lyriques qu'il fait de temps à autre, et Kubrick par la démesure. There Will Be Blood, c'était Daniel Day-Lewis qui était à la fin. Et il y a toujours cette espèce de... Il peint toujours des mégalos qui sont fragiles. C'est ça qui est surtout très important là. C'est que ce type qui est insolent, qui réduit tout le monde à sa merci, mais brusquement, il est, comme tous les héros de Paul Thomas Anderson, d'une fragilité extrême. Sa sœur lui dit à un moment donné, si tu te mesures à moi, je t'écraserai.
Sa sœur qui a un rôle très important.
Oui. Hein. Ah, et elle est droit sortie, c'est Mrs. Danvers de Rebecca d'Hitchcock, bien sûr. Oui. Et il y a Hitchcock, il y a aussi le sens du suspense, parce que c'est un film qui commence en effet comme ça sur des rapports de force entre les deux personnages, mais qui devient une histoire d'amour, d'une perversité et d'une ampleur et d'un lyrisme absolu. Je ne raconte rien, mais il y a juste un plan d'une omelette que mange.
Pas du tout.
Une omelette.
Mais c'est pas une omelette.
Combien d'œufs?
Une omelette aux champignons que mange. Et c'est, mais ça devient non. Un suspense. Je n'ai rien dit d'autre, enfin.
C'est son côté qu'est-ce maïté.
Mais non, mais qu'est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce bon, que, allez, est-ce que vous pouvez me dire comment ça se termine?
T'as dit l'essentiel, non. C'est que c'était un chef-d'œuvre.
C'est un chef-d'œuvre.
Eric.
Non, mais là, il faudrait trouver un nouveau truc, prendre une voix différente, mettre une musique spéciale, parce qu'on n'est plus dans le domaine habituel, là. On passe nos semaines, nous, à nous désespérer de ce qu'est en train de devenir le cinéma. Et là, on tombe à nouveau sur un type qui nous fait croire que c'est un art en pleine possession de ses moyens, que ça peut changer la vie, être plus important que tout ce qui se passe autour. C'est un chef-d'œuvre. C'est le mot beauté, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit quand on regarde ce film. Mais dès les premières minutes, avec
c'est une beauté vénéneuse.
C'est un laiteux, cette maîtrise qu'il a, ce portrait d'un créateur dont on ne sait pas si c'est vraiment un génie, parce que quand on voit les robes, elles sont plutôt tartes.
Mais oui, c'est ça qui est très ambigu aussi.
Mais ça se passe en Angleterre.
Oh bah.
C'est le goût anglais.
Non, mais c'est un type habité et on voit.
T'as vu les robes de la reine.
Avec cette vie qui crêpe, ce qui réussit à tenir tête à Daniel Day-Lewis. Ce qui n'est pas une mince gageure, elle fait débouler chez lui l'imprévu, le hasard, c'est-à-dire la vie. Et l'amour, c'est ça, c'est quelque chose qui dérange. Et c'est aussi un film très, très cruel, très, très juste sur l'enfer conjugal, sur tout ce qui horripile chez l'autre.
Le
bruit que font les biscottes quand on les tartine.
Ça, tu peux le raconter, ça.
le tintement de la théière ou de la cuillère contre une tasse de porcelaine. Et tous ces petits détails qui vous pourrissent la vie. Et comment ce type-là fond petit à petit devant cette fille qui rougit quand elle essaye une robe, avec sa sœur qui surveille tout ça d'un œil de glace, qui voit son frère lui échapper. C'est un film, mais magnifique, qui fait penser à Kubrick, qui fait penser à Orson Welles. Et je crois, moi, ça m'arrive rarement, je pense que je suis presque capable de me fâcher avec les amis qui n'aimeront pas ça.
Sophie ?
Oui, moi je renchéris là-dessus, je trouve que c'est un film très impressionnant, en effet, parce que comme l'a dit Eric, sur une romance assez simple d'une bergère qui tombe amoureuse d'un prince, on peut le dire comme ça, il arrive à faire quelque chose de très complexe, qui transcende les milieux, qui transcende les époques, ça se passe dans les années 50, mais c'est moderne en effet. Mais alors surtout, moi ce que j'ai trouvé très impressionnant, c'est que au-delà de la palette très large qu'il offre d'humeur, d'émotion, etc., pour moi c'est vraiment presque une expérience chimique ce film, c'est-à-dire que c'est comme si Paul Thomas Anderson disait je vais vous montrer ce qu'est ma décoction amoureuse, je vais vous montrer ce qu'est ma définition de l'amour, je vais vous... Et puis c'est une expérience sous cloche, d'où le côté un peu amidonné. La maison de couture, ça sera le laboratoire où ça va se passer, d'où ce côté tout est explosif, mais ça reste quand même toujours sous la contrainte et ça reste dans une espèce de silence et je vais vous montrer ce que par où doivent passer les amants pour en arriver à l'amour, qui est finalement un échange de pouvoir. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est plus un rapport de force banal inversé, etc. C'est bien autre chose. Mmh. C'est-à-dire que c'est un portrait de lui, mais c'est un portrait d'elle. Et oui. Elle lui dit, moi, tu fais joujou avec mon corps, mais eh ben, moi, je vais faire joujou avec le tien. Et quand on a vu le film, on sait ce que c'est faire joujou. Et du coup, le film devient tout à coup, non pas pervers, mais...
Très pervers. Non, mais quand
mais parce que il y a aussi du ludique dans le film. Moi, je le trouve plus ludique que pervers, ce film. C'est-à-dire, il nous montre c'est que la décoction amoureuse...
Ludique, t'as des drôles de jeu.
Il s'amuse.
Mais
alors ça frise le tragique, ça frise tout ce qu'on veut.
Il s'amuse comme un chat avec une pelote de laine, une petite souris.
C'est un film sur le consentement mutuel. Oui, l'amour, c'est du consentement mutuel. Et il est consentant, et ils sont consentants.
Tu as tout à fait raison, il y a un jeu entre eux.
Et donc, c'est extraordinaire à cause de ça.
Le grand film, pas simplement de la soirée, peut-être de l'époque, c'est donc le film de Paul Thomas Anderson. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le studio ? Non. Très différent, Le retour du héros de Laurent Tirard, que je conseille aux nostalgiques des Mariés de l'an 2. Je suis sûr que c'est un film qui vous a marqué. Les Mariés de l'an 2, non, Eric ?
Non, je suis pas fou des Mariés de l'an 2. J'aime bien les autres films
sauvage,
de Rapneau. Je préfère Le Sauvage ou L'Homme de Rio.
C'était pour rire, mais c'est pas grave. il va répondre très sérieusement. Bon. Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent et le prétendu héros qui aurait gagné ses galons pendant les guerres napoléoniennes, c'est le capitaine Neuville, Jean Dujardin, dont sa future belle-sœur Elisabeth, c'est Mélanie Laurent, ayant compris que c'était un menteur, un imposteur, a écrit les lettres à sa place et qu'elle a même fait mourir au front. Bah, manque de peau, il revient, il a déserté.
Ça raconte beaucoup quand même, hein.
Ah non, mais ça c'est...
Ouais, d'accord. Non, mais
c'est un peu titre, Sophie, en même temps.
Non, d'accord.
Bah, donc il revient, mais ça, même, je sais pas.
Non, c'est pas le retour. Bon, bah, peu importe.
Ils ont raconté,
mais tu as raison.
Bah, bon, oh là là.
Ah, tu comprends ma réaction de temps à autre.
On peut même plus raconter le début.
Et bref, ce sont, voilà, Neuville et Elisabeth qui vont se faire la guerre à fleur et moucheté. Bon, évidemment, c'est une comédie, vous l'avez compris, en costume. Une sorte de mix entre le film. Et les films de Philippe de Broca et Un gars, une fille, presque très élogieuse pour ce Retour du héros. Sophie ?
Ben oui, moi j'ai été séduite par ce film. Ouais, j'ai trouvé qu'il était d'une grande finesse. Je trouve qu'avec des écueils comme le film en costume et la comédie à la française.
La comédie
et en plus,
costume, la
comédie. Une comédie en costume, en effet. Et il partait avec des boulets aux pieds, Laurent Tirard, et je trouve qu'il a en fait quelque chose de très virevoltant, de très réjouissant. Je trouve que moi, je ne suis pas spécialement une fan ni de Mélanie Laurent, ni de Jean Dujardin. Je trouve qu'il se renvoie la balle avec beaucoup de plaisir et de jubilation. Je trouve que c'est un film qui joue avec le second degré sans en faire trop.
Oh non,
qu'il y a quand même toujours en permanence... Non, mais il y a l'idée quand même qui est très jolie dans le film, semble-t-il. Il y a l'idée quand même que sa vie, on la modifie si on sait la raconter, et que plus on l'invente et plus l'imaginaire reprend.
Il faut relire et revoir Cyrano de Bergerac.
Oui, mais c'est ce que j'appelle le second degré. Il y a quand même un jeu entre le premier degré et le second degré. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il permet au spectateur d'être... En fait, il y a trois complices dans le film. C'est le spectateur et les deux acteurs principaux, Dujardin. Et je trouve qu'il se passe la balle avec pas mal de brio. Je trouve que moi, ça m'a réjoui, ça m'a diverti. J'ai trouvé ça plutôt très bien. Et je trouve que Tirard, il avait fait, je me souviens, un Molière qui avait été assez démoli au masque, que moi, je n'avais pas trouvé si mal que ça, avec Duris, Romain Duris, il me semble. Et je trouve qu'il est bon dans cette façon finement
C'est ton droit.
Réinventer Charlotte. L'époque.
Oui, c'est clairement ce qui fonctionne dans le film, c'est le duo de ces deux acteurs et qui repose sur cette structure
extrêmement. C'est un peu la base du.
Oui, mais c'est la structure classique du clown blanc et de l'Auguste. Et dans le rôle du clown blanc, c'est cette jeune fille qui est intelligente, qui est vive, qui est brillante et qui donc est exaspérée par cet Auguste d'homme qui est plutôt nigaud, sans manière, un peu pâteau et surtout extrêmement
charmant.
Lâche et menteur. Et
c'est
donc, effectivement, comme dit Sophie, il se renvoie la balle et ça marche plutôt bien. On pense bien évidemment à De Broca, Rapneau et j'en oublie certainement d'autres. Et le film souffre, moi, je trouve, de la comparaison de ses aînés parce que ça manque quand même un peu d'éclat. Ça reste très plan-plan et très attendu dans le déroulé du film. Et même s'il y a quand même un effort d'écriture dans cette joute verbale, moi, je trouve que c'est pas suffisamment travaillé et que les répliques auraient pu être bien plus brillantes que ça. Je demande même pas le niveau de ridicule de Lecomte, mais quand même, ça pourrait tendre vers ça. Maintenant, comme Sophie, je trouve que le moment est plaisant et agréable et qu'on vole quand même au-dessus du niveau de la comédie française actuelle.
Si on compare ça aux aînés, effectivement, ils s'en tirent pas avec les honneurs de la guerre, mais si on mesure à ses contemporains, ça soulage de voir un film qui soit pas vulgaire, qui soit pas crado, qui soit un peu tenu, mais pas assez. Ça manque un petit peu de rythme, ça aurait dû être plus fouetté. Dujardin aurait dû débloquer plus à la Belmondo, mais peut-être qu'on ne l'a pas laissé faire. Mais il y a quelque chose dans la jubilation qu'il met à se glisser dans une vie que quelqu'un d'autre avait rêvé pour lui. C'est pas désagréable du tout, c'est pas déshonorant. C'est un très bon sujet, ça aurait pu être un très bon film de De Broca. C'est un film de Laurent Tirard. Et par les temps qui courent, c'est pas si mal.
Pierre.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de films de comédie qu'on hésite à voir quelquefois et qu'on ne voit pas. Et puis là, celui-là, vous avez tout dit. Mais moi, j'ai pensé à Michel Deville aussi. Michel Deville avait un sens de la mise en scène. Période Companèse, mais Michel Deville avait une sorte de précision, de rapidité dans la mise en scène que Laurent Tirard n'a pas. Mais c'est vrai que Mélanie Laurent, elle rappelle un peu Catherine Deneuve ou Françoise d'Orléac dans les années 60. Et elle a du charme. Alors je préfère Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve il y a quelques années, mais je trouve que ça a un petit charme et qu'on voit ça sans déplaisir.
Enfin, les dialogues auraient pu être brillants, si je puis me permettre.
Ça
coûtait pas grand chose, qu'ils soient brillants ou moins brillants.
Mais Jérôme, c'est peut-être la mise en scène qui est un petit peu lâche, parce que De Broca, ou surtout Michel Deville, dont je parle, avait une espèce de.
Je trouve bien indulgent. Mais le retour du héros, c'est Laurent Tirard. Pas de réaction sur ce film. Une apparition, le nouveau et long film, 2h20. De Xavier Giannoli, qui poursuit ici son étude sur les fabulateurs, après notamment le constructeur d'une autoroute imaginaire, c'était à l'origine. Après une Castafiore à la voix de casserole, Marguerite, voici donc une jeune fille de 18 ans, Anna Galatea Bellucci, acquise dans les Alpes de Haute-Provence. Je crois que c'est là le lieu exact. J'ai du mal à situer géographiquement, je crois que c'est les Alpes de Haute-Provence. Bref, la Vierge Marie serait apparue, comme à Pierre, d'ailleurs Murat, je crois. Non, tu n'as pas...
Pas souvent, un peu. De temps en temps.
On va enquêter, Pierre.
Aussitôt, les pèlerins affluent du monde entier pour recevoir sa bénédiction, mais le Vatican...
Mais c'est rare qu'elle apparaisse aux garçons, paraît-il.
Non, ça arrive.
Ça arrive, mais ça très arrive. Rarement. Donc.
Enfin, moi-même, je te raconterai un jour. Mais le Vatican est embarrassé. Il confie à un ancien grand reporter de guerre et de Ouest-France, c'est Jacques, qui est joué par Vincent Lindon, le soin de diriger sur les lieux de l'apparition, sur cette colline, une commission d'enquête canonique chargée d'établir la vérité. Mais plus Jacques enquête, et mieux Anna, cette sainte, presque sainte, s'esquive. Alors évidemment, on ne va pas donner la révélation finale, Pierre.
Non, hein, je ne donnerai pas. D'ailleurs, il n'y en a pas. C'est pour ça que je ne la donnerai pas, c'est qu'il n'y en a pas.
Ah si.
Mais, c'est le mystère.
Aïe, 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 aïe.
Ah ben non, attends.
Mal bah, si, y a une résolution.
C'est ça l'intérêt du film.
Oui.
Il y a une résolution.
Il y a une omelette.
Avec des champignons.
En tout cas, ce qui m'a frappé, c'est la manière dont, pendant tout un pan du film, j'ai presque cru qu'il pastichait un documentaire. Tellement c'est fait de manière, au début, scrupuleuse, méthodique, enquêtée. Avec simplement, bon, ben là, donc, qui devient un enquêteur. Ce qui m'a aussi quand même beaucoup, pour le coup, touché, c'est la manière dont Giannoli respectait les croyants. Il y a une sorte de...
Sûr,
oui, il respecte ceux qui croient.
Oui, ça l'intéresse, même.
Oui, ça l'intéresse. Pierre.
Ah, moi, je trouve que on a de la chance cette semaine, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons films au programme, et celui-là en est un. C'est vraiment... Alors, tu l'as dit, Jérôme, c'est vraiment un thème qui, depuis le début, l'intéresse. Tout ce qui est faux, tout ce qui est... Il avait fait aussi un film avec Admirad, Superstar, qui était brusquement quelqu'un qui, un anonyme qui devenait célèbre pour des raisons absolument incompréhensibles. Et là, ce que je trouve absolument magnifique, c'est que d'abord, c'est un, tu l'as dit, un documentaire qui devient très vite une enquête. C'est-à-dire que c'est un thriller. C'est-à-dire qu'il va de personnage en personnage et oui. Mène une enquête, mais vraiment comme un journaliste.
Pas non plus laisser croire aux gens que c'est un thriller au sens.
C'est quand même.
C'est plus que ça, c'est plus subtil, je veux dire.
Oui, mais ça commence comme ça, me semble-t-il, et ensuite ça débouche sur quelque chose qui me plaît beaucoup et qui est très ample et qui, à mon avis, très rare dans le cinéma français, qu'il aborde, c'est-à-dire le mystère. Justement, on parlait de mystère tout à l'heure, c'est comment réagit-on dans notre société à quelque chose qui nous dépasse? Est-ce qu'on le refuse? Est-ce qu'on l'accepte? Et quels sont les doutes? Moi, c'est un film sur le doute permanent. C'est pour ça que je disais que rien n'est résolu. C'est que parce que jusqu'au bout, il y a quelque chose qui dépasse un peu l'entendement, la logique, et qui fait que l'enquête de Vincent Lindon continue de plus en plus et qu'il est brusquement mis face à quelque chose qui le dépasse. Et ça,
en cas d'ailleurs qu'il a du mal à amener, parce que cette jeune fille, il faut dire, est cornaquée par un prêtre.
Oui, chacun y trouve son intérêt en quelque sorte.
C'est-à-dire oui,
le prêtre est celui qui veut faire passer ça en audiovision, toutes les cérémonies, etc. Et chacun a ses raisons, comme disait Jean Renoir dans ses films. Mais là, lui continue à faire. Et ce que je trouve très beau, c'est ça. C'est brusquement quelqu'un qui a des certitudes ou qui cherche des preuves certaines et qui brusquement se trouve confronté à quelque chose qui lui échappe et qui échappe à tout le monde. Je trouve que c'est un film tout à fait étonnant.
Eric.
Giannoli est un de nos cinéastes les plus intéressants. De toute façon, tous ses films sont bons. Et là, le film est passionnant, mais je ne sais pas, il manque quelque chose et je n'arrive pas à deviner quoi.
Sur un sujet... C'est le mystère.
Ouais. Non, mais sur un sujet pareil, il devrait y avoir du vertige et c'est ce qui manque un petit peu. Alors que dans À l'origine, qui était l'histoire d'un type qui construisait une autoroute, on sentait le vertige, quelque chose qui nous dépassait, qui était presque métaphysique. Là, il veut mettre trop de choses dans son film, apparemment. Il est dépassé par tout ce qui se passe. Il y a le côté documentaire, il y a l'enquête. Vincent Lindon est... toujours parfait, il peut tout jouer ce gars-là, c'est vraiment, faut qu'on se le garde sous cloche. La petite Galatea là est une révélation. Il y a une scène qui dure presque 5 minutes où elle est toute seule face caméra qui est formidable. Et le film part un petit peu dans tous les sens, c'est assez déconcertant. La fin est superbe, je ne la raconterai pas, je laisserai Pierre le faire. Mais c'est un film intéressant, mais avec quelque chose de déceptif. On se dit que il a cherché, il a douté, et qu'il n'est pas arrivé à boucler, contrairement à ses films précédents, ce qu'il avait entrepris.
Charlotte.
Moi, je rejoins mes camarades. Je trouve le film absolument passionnant, ne serait-ce que parce qu'il repose sur quelque chose de totalement paradoxal, c'est-à-dire une enquête canonique. Dans une enquête, il s'agit de récolter des preuves, et canonique, qui a trait à la foi, c'est par essence quelque chose qui repose sur l'absence. Oui, mais sur l'absence de preuves, la foi. Donc, En gros, il s'agit quand même d'apporter les preuves de quelque chose qui, par définition, ne se prouve pas. Et en ça, je trouve ça absolument vertigineux dans toutes les questions que ça ouvre, et d'autant plus à travers les yeux de ce personnage interprété par Vincent Lindon, qui est un photographe, reporter, mais photographe de guerre, donc un homme dont le métier est de justement rapporter des preuves.
Il faut dire qu'il revient brisé parce qu'il par l'image. Parce que il revient du front.
Oui, et il a perdu un ami, il est un peu brisé.
Son meilleur ami.
Mais le parcours de cet homme-là est de ramener des preuves par l'image de ce qu'il voit. Et là, on lui demande donc des preuves de quelque chose qui ne peut pas se prouver. Donc, je trouve que le film est absolument assez vertigineux et très intéressant dans les questions qu'il traite, et que par ailleurs, il a une véritable ampleur romanesque. C'est-à-dire qu'effectivement, si au début, ça démarre un peu presque comme un documentaire théologique, Xavier Jeannelly fait du cinéma, il fait un film, et donc il va dérouler ça dans une ambiance, je ne dirais pas thriller, mais un peu polar quand même, qui nous tient en haleine, et qui nous tient d'autant plus en haleine que le duo principal, Vincent Lindon et cette petite Galatea Belloughi, qui est absolument fascinante, je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose d'assez mystérieux et d'indéfinissable dans toutes les scènes où ils sont confrontés tous les deux. Et encore une fois, Giannoli, Eric le disait, est un grand réalisateur. C'est que dans des films extrêmement différents entre À l'origine Marguerite et celui-là, il ne traite que du même sujet, l'aveuglement et l'imposture.
Sophie.
C'est bien ce qui me déçoit beaucoup dans le film, c'est qu'il tourne autour de ce sujet de comment montrer l'invisible, comment aller parler de quelque chose qui nous dépasse. Hein, il parle toujours de ça dans ses films.
Ça déçoit, ça.
Mais parce que je me suis dit, enfin, il va arriver à il prend la foi, hein, il prend une apparition, un truc complètement divin, et il va enfin aller dans le sujet franco, quoi. Il va y aller et il va se risquer parce qu'on sent qu'il est travaillé par ça. Et je trouve qu'il est rattrapé par sa rationalité et qu'il ne se laisse pas aller. Il fait au lieu de faire un film mystérieux et de faire un film métaphysique, parce qu'il aurait pu très bien faire un film métaphysique et c'était le moment ou jamais. Eh bien, au contraire, je pense qu'il c'est comme s'il avait paniqué et qu'il avait fait en sorte de que la rationalité des choses et cette enquête qui peut à peu prend toute la place et qui encombre, à mon avis, le film et qui l'affaiblit, l'empêche d'aller vers le mystère auquel il aspire. Et c'est dommage parce que dès le début, en effet, Vincent Lindon est un homme brisé, comme tu l'as dit, Jérôme, et on sent qu'il c'est un homme de preuve, mais c'est aussi un homme qui a besoin de consolation et qui, voyant les pèlerins, la souffrance du monde et comment la prière et la foi les sauvent, est sur le point d'osciller. Et ça, c'est très beau et ça s'effrite, malheureusement, parce que l'enquête prend le dessus et je trouve qu'à la fin, ça devient un film qui est long, c'est une enquête qui est presque laborieuse, qui complique à loisir les choses, on n'y comprend plus rien, et du coup, il enlève tout mystère au film.
Mais non, parce que Sophie, toute la fin, c'est quand même l'itinéraire de cet homme. C'est pas dans
moi,
la question
j'ai trouvé
de la foi,
que le
c'est
film,
comment lâcher
lui,
il est,
tout son
c'est
mystère.
Ce parcours intime.
Et ben son parcours intime, je trouve qu'il s'affaiblit à mesure. Enfin, il ne marche pas, ça ne fonctionne plus. Au lieu, encore une fois, de faire un film mystérieux, il en fait un film qui devient vaguement voilà, une espèce de quête vers la boucle est bouclée, on va dire, hein, pour pas révéler la fin tout en disant un peu de...
Mais pas tant que ça, parce qu'elle est très ouverte sur ce personnage,
moi,
sur le personnage principal.
Ça l'affaiblit considérablement, avec le film qui dure déjà 2h30, qui démarre magnifiquement, qui commence magnifiquement, ne tient pas ses promesses de encore une fois, de métaphysique. Quoi.
Une apparition de Xavier Giannoli. Pas de signe réaction dans le studio. Le micro va venir vers vous.
Oui, bonsoir. Moi, personnellement, j'ai trouvé ce film absolument remarquable. J'avais cru lire dans certaines critiques que certains le trouvaient beaucoup trop écrit. Et justement, je trouve que c'est d'une rigueur d'écriture absolue. C'est-à-dire que toutes les pistes qui sont lancées dans le film, aussi bien sur la gamine, sur le rôle des prêtres par rapport à elle, absolument rien n'est lâché. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce film-là. Et voilà, justement, vraiment, c'est un film, même par rapport à la question de la foi, qui est extrêmement accessible. On peut vraiment le voir comme un polar. C'est vraiment, même si, par l'autre exemple, c'est Le silence de Scorsese qui était sorti il y a un an, qui est pour moi un film tout aussi passionnant, mais très différent, qui pour le coup était un film complètement inaccessible à quiconque ne connaissait ni Scorsese, ni La prisonnière du désert, ni les films du Kurosawa, etc. Là, pour le coup, c'est un film qui est très accessible parce que c'est un polar. Donc voilà, et surtout, la petite fille, elle est exceptionnelle, cette actrice.
Oui.
Voilà, la scène dont vous parliez, l'interrogatoire au début, mais...
Galatea Belloughi.
Galatea Belloughi, elle m'a mis les larmes aux yeux. Vraiment, voilà, la scène d'interrogatoire.
Dans le film belge Keeper, et elle va jouer Eva Ionesco, jeune, dans l'adaptation au cinéma de Une jeunesse dorée.
Merci pour votre analyse et témoignage. C'est tout pour l'apparition. On va aller, si vous voulez bien, un peu vite maintenant. D'abord, Lady Bird, le premier film de Greta Gerwig, l'actrice fétiche de Noah Baumbach, qui lui vaut 2 Golden Globes et d'être quand même 5 fois nommée aux Oscars. un film où elle raconte la fin de son adolescence à Sacramento, ses relations compliquées, c'est moins compliqué, avec sa mère et son envie irrésistible d'aller étudier à New York avec dans le rôle de son double de Lady Bird, Saoirse Ronan, je ne sais pas comment on dit exactement, c'est compliqué.
Personne ne sait.
Ah bon,
Saoirse Ronan.
Ça s'écrit Saoirse, mais c'est, ouais. Il paraît que c'est Saoirse Ronan, c'est ça?
Saoirse. Je ne sais pas.
Et c'est du russe?
Bon, enfin, elle est
très bien.
Elle est formidable.
Elle est bien. Eric?
Ah bah, c'est un film sur l'adolescence d'une justesse inouïe. Là. C'est comme un très bon premier roman. Et c'est d'autant plus réussi qu'elle n'a pas 19 ans, Greta Gerwig. Elle a attendu, donc elle a fait le tri. Elle n'a pas tout mis, elle a mis juste ce qu'il fallait dans le film. Les rapports avec la mère, cette fille qui veut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Ça commence par une phrase de John Didion qui dit « Quiconque parle d'hédonisme californien n'a jamais passé Noël à Sacramento ». Et tout le film est résumé là-dedans, parce que l'adolescence, c'est cet âge où on a l'impression que personne ne vous ressemble assez pour vous comprendre. Et la fille se heurte à ses amis, à la richesse, à la pauvre, enfin à l'absence d'argent en ce qui la concerne. Elle s'invente une vie et c'est une fille qui croit qu'elle va partir pour la côte Est, pour le Connecticut, où tous les écrivains vivent dans la forêt. Elle s'imagine ça. Et ce sont tous ses rêves, contrariés par le quotidien, avec les conflits, la réalité, le côté matériel des choses. Et la violence des rapports, c'est le genre de fille qui est capable, quand elle se dispute en voiture avec sa mère, de sauter, d'ouvrir sa portière et de sauter. Et tout est comme ça avec ce.
Et je trouve qu'on comprend mieux la comédienne qu'elle est devenue.
Oui. Bah.
Y compris dans les films de Baumbach. Ouais. Pierre.
Bah, c'est sympatoche. Non, c'est vrai, c'est bien tout ce que tu as dit, Eric, est tout à fait vrai. L'actrice est formidable. Voilà, enfin, on a quand même, sur l'adolescence, et les émois de l'adolescence, et les rapports difficiles qu'une adolescente peut avoir avec ses petits copains, la ville, sa mère, la société, on a quand même vu ça 32 fois et demi. Mais c'est très bien. Je suis un peu étonné que, par exemple, Greta Gerwig soit nommée à l'Oscar comme metteur en scène, alors que celui qui a fait Three Billboards, alors que le mec qui a fait Les Panneaux de la Vengeance est oublié dans les cinq, ça me paraît quand même totalement incongru, mais je suis très content.
Elle est très tendance, hein.
Elle est très tendance. Elle est très tendance.
Elle
a la carte.
Gold de gold.
Voilà, très gold. Mais voilà, c'est très sympa. Pas plus que ça, mais très sympa.
Tu donnes très très envie d'y aller, Charlotte.
Oh si, moi je trouve c'est plus que très sympa. C'est-à-dire que le film s'inscrit très clairement dans la veine des films indépendants, d'auteurs.
Très Vanity Fair, ce film, je trouve.
Probablement, oui, c'est vrai, peut-être. Mais en même temps, je me dis que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus de chance que Sophie et moi. Nous, on avait la boue, mais bon, bah. C'est vrai, mais parce que c'est vraiment effectivement le film de
avec Pierre, on avait la règle
chronique
du jeu,
adolescente de l'émancipation. Et je suis d'accord avec Eric, il y a une justesse d'écriture incroyable et Greta Gerwig saisit extrêmement bien ce moment de l'adolescence ou le passage, on va dire, à la jeune femme qui est où on est capable d'être extrêmement insolent avec ses profs et ses parents et en même temps paralysé de timidité devant le beau garçon qui passe. Donc tout ça.
Surtout, c'est les mystérieux.
Très mystérieux. Et un beau brin qui lit de la poésie Sophie. En roulant ses cigarettes. Personne ne résiste.
Oui, moi, je suis complètement d'accord. C'est un film qui, effectivement, qu'on a déjà vu ce thème traité des centaines de fois. Mais elle a en effet une justesse merveilleuse. Et surtout, ce qui est merveilleux, c'est que l'actrice qu'elle est, qu'on a découvert avec Baumbach, qui est à la fois un mélange de grâce et de maladresse, eh bien, on a l'impression de la voir dans ce film-là. Elle joue pas à l'écran et pourtant, elle irradie. Et tout le film, il est fait de ces mouvements contradictoires sans arrêt. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont portés par leur exaltation et puis qui, en même temps, qui ont les ailes coupées, qui sont empêchés. Il y a de la coquetterie, il y a de la mélancolie. Tout est comme ça dichotomique, toujours en permanence dans le film. Et c'est les contradictions de la vie et c'est ce qui lui donne sa justesse.
Le film est très drôle, je ne sais pas si on l'a suffisamment dit, c'est quand même une comédie. Hein.
Beaucoup de coquetterie.
Lady Bird, Greta Gerwig. J'avais également inscrit Corps étranger de la Tunisienne Raja Amari, une comédienne que je trouve toujours somptueuse. Quoi qu'elle joue, c'est Yam Abbas. Avec également Sarah Anachi, Salim Keshouch. Et là, c'est une bourgeoise lyonnaise qui vient de perdre son mari et qui veut faire le ménage dans ses affaires. Et débarque une jeune clandestine, Samia, qu'elle engage. Donc c'est Sarah Anachi qu'elle engage pour l'aider sans mesurer évidemment que sa vie va être bouleversée. Car non seulement Samia essaye d'échapper à la vengeance d'un frère radicalisé, qu'elle a en plus dénoncé, mais en plus elle introduit chez sa patronne, donc chez Yam Abbas, un ami d'enfance qui tient un bar qui a un charme assez fort et mystérieux.
Mystérieux
auquel Leïla va succomber. C'est vraiment un trio inédit, troublant. Et surtout, je trouve que ça montre bien le film, ce que sont que deux générations d'exilés totalement différentes entre cette Leïla et la petite Samia. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Pierre? En quelques mots,
tout en quelques mots. Eh ben voilà, mais je trouve que c'est ce qui est très fort dans le film, c'est que on montre à la fois cette fille qui arrive de Tunisie, donc on voit tout le contexte dans lequel elle arrive, qui est là, très présent, même si tout se passe en France, bien sûr, et en effet, avec l'opposition et les liens, là aussi, un peu pervers, qui se nouent entre ces trois personnages. Je trouve ça d'une justesse très réelle, quoi, et une ambiguïté constante. Voilà, donc je trouve ça vraiment bien.
Moi, je trouve ça très faible et maladroit. Dès le début, là, ces scènes au ralenti de noyade dans les eaux bleues.
Oh, mais ça, c'est le générique.
Ah oui, mais ça revient.
C'est le générique. C'est le générique.
Elle n'arrive pas à traiter les rapports entre ces gens, à mêler l'intime et la politique et la société. Et il y a une scène hallucinante qu'on n'oserait même pas passer dans un film de charme, comme on dit sur M6. C'est la scène érotique à trois. Je crois qu'on appelle ça triolisme. Alors là, mais c'est affreux. C'est presque un film amateur.
C'est pas une scène de triolisme. Qu'est-ce que tu racontes?
Il vous en faut peu. C'est quand même une scène où le désir circule entre les trois. Il faut pas l'amour peut-être, mais enfin ils sont attirés.
Elle se veut érotique. Je suis désolé.
Pour une fois, je suis d'accord avec Chic.
Non, il y a aucune chair dans ce film.
Moi, je trouve justement le point de vue intéressant du film, c'est que finalement la réalisatrice a ce propos de dire que pour se libérer de l'oppression sociale, il faudrait d'abord se libérer de soi-même et que ça passe par la libération des corps. Et en ça, je trouve le film extrêmement intéressant, même si c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu alourdi par trop de sujets qu'elle tente de brasser entre effectivement la radicalisation, l'immigration et tout ça. Mais c'est un très joli film et très audacieux pour une réalisatrice tunisienne.
Ça peut être.
Oui, enfin. Le sujet est formidable. En effet, parler du désir des clandestins, j'ai pas vu ça souvent, et c'est mieux que de les circonvenir à leur statut de clandestin. Donc c'est génial comme sujet, sauf qu'elle est pas à la hauteur du sujet, je suis désolée. Et en effet, là, pour une fois, je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis d'accord avec Eric. Et je trouve qu'il y a...
Pardon.
Et j'ai pas envie de m'acharner sur le film non plus, parce qu'il a des qualités, mais enfin, c'est d'une telle maladresse par moment qu'on se dit, quel dommage d'un tel sujet, en avoir fait un film auquel on n'y croit pas. Moi, je trouve pas que ce soit la vie, c'est une idée de la vie, mais c'est jamais juste.
Aucune de justesse. Beaux portraits de femmes, les portraits
non, je trouve
de femmes
pas.
Sont
je
magnifiques.
Trouve, je trouve que les portraits sont ratés, je suis désolée. Non.
Corps étranger de Raja Amari, et d'ailleurs il y aura bientôt un film alors là, d'un Tunisien qui est Mehdi Benatia, L'amour des hommes, qui est aussi sur le désir, mais le désir des femmes pour les hommes. J'avais inscrit, pour finir, le film de Danny Boone, mais j'apprends avec stupéfaction qu'à part Sophie Avon et votre serviteur, l'animateur, vous n'avez pas vu La ch'ti de famille de Danny Boone. On va en dire quelques mots, ne serait-ce que parce qu'après Les Tuches et quasiment de Eric Rohmer, tellement je trouve ce film plutôt touchant avec Danny Boone, avec Laurence Arnay qui joue sa femme dans le film, qui est un couple de designers fortunés qui prépare. Alors ça s'ouvre, il faut dire, au palais de Tokyo, ultra tendance et chic, et puis débarque au palais de Tokyo, évidemment, la famille ch'ti menée par Lynn Renault, évidemment, entourée de Guy Lecluise, de Valérie Bonneton, et le père, Pierre Richard, étant resté dans sa casse dans le Nord, sur l'infidélité à ses origines, à son passé, à sa région. Ce qui est le cas de ce film. Tu trouves pas, Sophie, que c'est assez juste?
Non, je trouve pas que ce soit juste. Non, outre que je trouve que la comédie n'a rien à voir avec l'exagération et la caricature, mais plutôt avec, au contraire, la stylisation et donc le moins plutôt que le plus, je trouve qu'en plus, ce film véhicule, moi, des choses qui m'exaspèrent. Et notamment que je trouve démagogique.
L'anti-parisianisme, je suis sûr.
Alors, c'est toujours la province qui est merveilleuse, et en province c'est tellement bien, et les gens en province sont tellement bien, alors que les Parisiens sont des têtes de chien, c'est bien connu. Ce qui me gêne davantage...
C'est pas totalement faux quand même.
Oui, mais enfin, en même temps, quand on lit Simenon, on voit bien que la province, c'est pas non plus le paradis.
Hein, la province, on dit les régions, et on
dit... Oui, mais moi j'ai dit la province. Et je suis de province, en plus, je suis une provinciale, donc je peux me permettre de le dire. Donc,
t'es une bordelaise, t'es pas une provinciale, t'es une bordelaise.
J'ai vécu dans beaucoup d'endroits, bref. Plus que ça, ce qui me gêne encore davantage et que je trouve presque dangereux, c'est cette espèce de suspicion vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de la connaissance. À l'entendre, la connaissance engendre des gens, forge des gens qui seraient arrogants et qui n'auraient aucune vertu humaniste, etc. En revanche, quand on est ignorant, qu'est-ce qu'on est gentil ? Bon, je trouve que c'est un peu jouer avec le feu que de prôner ça, et je trouve qu'il le prône beaucoup. J'aime pas non plus la façon dont il filme, par exemple, cette petite fille, qu'il ne filme que quand il en a besoin, d'une certaine manière. Voilà, il n'a pas une façon fine, me semble-t-il, de filmer sa famille. En revanche, parce que je suis juste, il y a des choses que je trouve pas mal dans le film. En effet, quand l'orthophoniste vient lui donner des cours, je trouve que c'est assez drôle, parce que là, tout à coup, il décroche de sa dichotomie, là, province, Paris, et qu'il décroche de son truc. Et là, il est assez drôle, parce que tout le monde s'en prend plein la gueule, et c'est assez drôle. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un film très démagogique.
C'est pas un film qui se veut drôle, hein. C'est pas...
Ah bon, bah, enfin,
il... Non, il moi, se je veut, trouve... ben, il moi, se il veut m'a pas ému une il seconde. Il se veut plutôt mélancolique.
Il m'a pas ému une seconde. Et ce truc de l'enfance qui serait, un puits de vérité, je trouve que c'est un peu facile, quoi. Alors, je trouve qu'il y a des choses.
Rien que pour la fin, qui est la version Que je t'aime.
Tu trouves ça bien, toi?
De Johnny Hallyday, Que je t'aime en biloute, chanté par Pierre Richard.
Moi, j'ai trouvé. Pour moi, c'était une souffrance, ça.
J'aurais tout fait. La petite famille, c'est Danny Boone. Allez, un conseil pour terminer cette émission, Pierre.
Un bouquin sur Montgomery Clift, l'acteur, qui s'appelle L'enfer du décor, de Sébastien Monod. Clift, qu'on connaît évidemment tous très bien, et dont on s'aperçoit de plus en plus que c'est un acteur beaucoup plus fin que ses grands rivaux James Dean, Marlon Brando. Donc, il faut le voir. Enfin, et il faut lire le bouquin pour savoir à quel point son ambiguïté même. Bon, il était homosexuel, il en souffrait beaucoup, et toute sa vie a été bouleversé par ça, mais il lui a coûté aussi l'Oscar. Il n'a jamais obtenu l'Oscar, et Sébastien Monod le démontre très bien, parce qu'il représentait justement cette Amérique ambiguë qu'elle refusait de voir en lui, en quelque sorte. Et je trouve que c'est une étude vraiment très, très, très brillante, et c'est aux éditions LET, L-E-2-T, Motif.
Le conseil d'Éric.
Eh bien, aux éditions Capricci, Les Maîtres d'Hollywood, un recueil d'entretien de Peter Bogdanovich avec tous les grands metteurs en scène de l'époque. Ça a été fait dans les années 60-70 avec Léo McCarey, Joseph von Sternberg, Howard Hawks qui se taille la part du lion, qui a presque droit à 100 pages, Fritz Lang, Raoul Walsh aussi, dont on apprend qu'il avait volé à la morgue le cadavre de Lionel Barrymore pour aller le poser sur le canapé de Errol Flynn, qui est rentré chez lui tellement saoul qu'il ne s'est aperçu de rien. Et le livre est bourré d'anecdotes comme ça, de détails techniques, et on voit que si Bogdanovich n'a pas toujours été un cinéaste très égal, comme intervieweur, il est vraiment hors pair, et il y aura un tome 2 bientôt, et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle.
Mon conseil, c'est un doc qui m'a à la fois enchanté et bouleversé, qui s'appelle « Un jour, ça ira » de Stan et d'Edouard Zambeau, réalisé dans un centre d'hébergement parisien, l'Archipel, et dont les deux petits héros sont Ange et Jibi, deux ados de 13 ans, Ange qui vit seul avec son père, Jibi qui vit seul avec sa mère, et qui vont, comment dire, survivre, vraiment survivre, revivre même, en composant des articles pour Libération, et même des chansons qui sont absolument bouleversantes. C'est un film en plus où l'image est très belle, et tout est juste du début, et ces deux, Ange et Jibi, sont parfois même à pleurer. Charlotte.
Un adolescent aussi italien, c'est Manuel, un premier film de Dario Albertini, où l'on suit donc ce jeune Manuel. Il vient d'avoir 18 ans, et donc il doit partir du foyer social dans lequel il a grandi. Sa mère est incarcérée, et pour qu'elle puisse bénéficier d'une assignation à résidence, il va falloir qu'il prouve, lui, à 18 ans, qu'il est devenu un adulte responsable et qu'il peut s'occuper de sa mère. C'est un premier film qui m'a absolument bouleversée, qui est très clairement dans une veine un peu néo-réaliste italienne, mais avec beaucoup de douceur, de bienveillance, une certaine poésie même, avec des clins d'œil à Truffaut incroyables, et une séquence finale absolument bouleversante. C'est Manuel.
Le conseil de ce film.
De très 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 beaux films, dont on n'a pas parlé ce soir, mais qui aurait pu être au programme. C'est Les garçons sauvages de Bertrand Mandico, qui est un film extraordinaire, qui est vraiment étonnant, qui est complètement dingue et vraiment magnifique. Et Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, qui est adapté d'un roman d'Andrea Siman et qui est un très beau, qui se passe aussi en Italie, qui est un film encore d'initiation entre un tout jeune homme de 17 ans et un homme un peu plus vieux que lui. Et c'est vraiment deux films très, très beaux.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Sophie Avon, Charlotte Lipinska, Eric Neuhoff, Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. À la technique au Charles Trenet ce soir, Pascal Bénard, Stéphane Touvenin, Bastien Varigaud. La réalisation était de Didier Lagarde. Vous notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque aura lieu le jeudi 8 mars. Je vous attends à 20h au studio. Cette fois, Sacha Guitry de la Maison de la Radio pour deux émissions. L'une consacrée au livre, l'autre au théâtre. Dans une semaine, on parle de littérature. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.